À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous êtes comme moi et vous souffrez du blues de novembre? Alors nous, l'équipe du Brief et de la rédaction de l'Écho, on fait en sorte de partager avec vous des infos qui ne soient pas seulement des mauvaises nouvelles, mais aussi qui relaient des initiatives positives et porteuses de bonnes nouvelles. En tout cas, on essaye. Et qui sait, peut-être que ça participera à vous aider à passer novembre plus facilement. En tout cas, on l'espère. Nous sommes lundi 7 novembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'Écho.
Et notre invité du jour, c'est Marek Hudon, professeur à la Solvay Brussels School of Economics et Management de l'ULB. Ensemble, nous parlerons évidemment des défis de la COP27, nous analyserons le management du réseau social Twitter et nous reviendrons sur les derniers rebondissements concernant la Coupe du Monde de football 2022. Je suis Sunshine Courrier et vous écoutez le Brief.
Le Brief, cette info dès 7h.
Bonjour Marek Hudon, merci d'être notre invité.
Bonjour.
Marek Hudon, la conférence mondiale 2022 sur les changements climatiques, la COP27, s'est ouverte hier à Sharm el-Sheikh en Égypte. Écoutez les mots forts d'Alok Sharma, le président de la COP26 en 2021.
Je comprends que les dirigeants du monde entier aient dû faire face à des priorités importantes cette année, mais nous devons être clairs. Aussi difficile que soit le moment que nous vivons, l'inaction est myope et ne peut que retarder la catastrophe climatique. De combien de rappels à l'ordre le monde et ses dirigeants ont-ils encore besoin ?
Alors l'Égypte a déjà dit qu'elle ne voulait pas que les tensions mondiales actuelles servent de prétexte à un recul sur les engagements climatiques. C'est ce qu'elle a fait savoir par la voix de son ministre égyptien des Affaires étrangères, Sami Choukri. Marek Hudon, vaste question, mais vu la situation géopolitique, que peut-on attendre de cette nouvelle grand-messe environnementale ?
Malheureusement, pas grand-chose, je crains. Donc la plupart des observateurs sont pas très optimistes. Il y a peu de nouveaux plans nationaux qui sont sur la table. De nombreuses promesses des dernières COP n'ont pas été tenues et je pense que ça va jouer évidemment un rôle aussi. Mais clairement, l'utilité de ces COP, elle est mise en question. D'un autre côté, on peut se poser la question de si leur contribution est insuffisante. Elles contribuent tout de même à mettre la thématique du changement climatique à l'agenda. Donc elles ont une certaine utilité. Mais globalement, ici, je crains qu'il n'y a pas grand-chose qui pourront se faire décider.
Et justement, Marek Hudon, en termes d'objectifs pour atteindre la fameuse neutralité carbone à l'horizon 2050, on va se pencher sur la fin des voitures thermiques en 2035. Cette décision de l'Union européenne, elle entraîne de facto la fabrication et la vente de véhicules 100% électriques. La voiture est le premier mode de déplacement des Européens. Elle représente un peu moins de 15% des émissions de CO2 totales dans l'Union européenne. Et donc, l'idée, évidemment, c'est toujours de diminuer ces émissions de CO2. Mais, Marek Hudon, est-ce que cette transition vous semble prendre en compte assez d'éléments comme la raréfaction des matériaux électriques pour réussir à faire ce shift ?
À court terme, sans doute qu'on va avoir assez de matériel, mais à long terme, ça reste un grand défi. On peut craindre qu'on va remplacer en fait ce problème actuel qui est l'impact des moteurs thermiques par un nouveau problème qui va être la raréfaction des ressources nécessaires pour construire des voitures électriques, clairement sur le long terme. Et ce type de problème, il pourrait en fait arriver beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Et donc, ce qu'il faut faire sans doute, c'est mieux monitorer ceci. On sait qu'au niveau fédéral, on parle d'un nouvel observatoire de la raréfaction des ressources critiques, un centre d'excellence sur le climat. Plus largement, je crois qu'il faut mieux planifier, prévoir ces crises, dont les crises des ressources naturelles et la raréfaction de celles-ci. En France, on a un bel exemple avec France Stratégie, qui est un organe intéressant. Je pense qu'on pourrait s'en inspirer, oui.
Toujours dans le volet écologie, la semaine dernière, nous avons parlé dans le brief du Brussels Beer Project qui renonçait à la grande exportation par souci écologique. Il y a quelques semaines, le patron de Patagonia, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Marek Hudon, il annonçait céder son entreprise à un fonds actionnaire pour la cause environnementale. Est-ce que ce serait là les signes d'un changement plus fondamental dans la société. Est-ce qu'il y aurait une sorte de prise de conscience dans notre manière de produire et de consommer ?
Globalement, je pense que ces exemples restent marginaux, mais ils ont le mérite d'être fort inspirants et peut-être qu'ils pourront faire des petits, ou en tout cas qu'ils pourront influencer d'autres projets. Une chose est de signaler que la cohérence des activités nécessitera aussi de fermer des activités, hein, sortir de certains secteurs. C'est ce que suggérait en fait Brussels Beer Project avec une fin d'un certain nombre d'exportations. C'est le concept d'exnovation, sortir d'eux, qui est à l'inverse de l'innovation. Ça peut avoir un coût, ça peut malheureusement diminuer le chiffre d'affaires, mais par contre, on voit aussi l'intérêt stratégique de ces annonces, comme celle de Brussels Beer Project, ça va apporter en termes de notoriété, de branding. Et donc, globalement, je pense que c'est intéressant. Et pour finir, peut-être un élément, on parle dans le cadre de Brussels Beer Project de l'usage excessif de plastique, qui peut être particulièrement un élément important, par exemple pour les nouvelles générations, qui sont très sensibles au plastique aussi. Donc, on voit l'intérêt.
Parlons à présent de la précarité. Le 9 novembre 2022, Marie Cudon, vous modérez une conférence débat sur le campus du Solbosch à l'ULB. L'Université libre de Bruxelles et les Restos du Cœur y aborderont le sujet de la crise énergétique avec l'envolée des prix. Des personnes qui étaient déjà en situation précaire se retrouvent maintenant dans de profondes difficultés. Alors Marie Cudon, première question, est-ce que la précarité augmente en Belgique avec cette situation de crise énergétique?
En tout cas, la situation est vraiment inquiétante. Pas loin d'un enfant sur cinq vit en situation de précarité en Belgique. On a eu la publication il n'y a pas longtemps d'un rapport de l'IWEPS en Wallonie qui pointe également un renforcement des déséquilibres socio-économiques et des inégalités sociales en Wallonie depuis 2016. Donc il y a de quoi s'inquiéter. Malheureusement, pour répondre vraiment à votre question, il faudrait avoir des chiffres précis. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des outils qui permettent de suivre la précarisation de la société. Les chiffres qui nous viennent, en fait, datent souvent de quelques mois, de 6 mois. Et donc, c'est ça aussi un élément qui est important, parce que si on veut bien anticiper l'impact des mesures qu'on va prendre cet hiver, il faudrait avoir des chiffres précis. Et ça, c'est encore quelque chose qui doit être développé.
Et vous qui êtes professeur à l'ULB, est-ce que les étudiants sont assez soutenus aussi, pensez-vous?
Je pense qu'on doit en faire plus, évidemment, et les recteurs sont alarmés aussi. La RES, qui regroupe les différentes universités, hautes écoles, a d'ailleurs publié un rapport sur ce sujet avec l'Union des classes moyennes et la Fédération des CPS. Clairement, qu'est-ce qui doit être fait? On parle des liens entre ces établissements d'enseignement supérieur et des CPS, des échanges d'informations, l'augmentation des moyens de fonctionnement des services sociaux des établissements d'enseignement supérieur. La liste est longue. Et la liste est longue, mais l'hiver risque aussi d'être fort long pour nos étudiants. Donc je crois que la situation est vraiment alarmante, en fait.
Passons maintenant à Twitter.
Prends garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi, si je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous, et puis chacun pour soi, et c'est comme ça qu'on s'aime.
Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, a décidé de sortir Twitter de la bourse pour être libre d'opérer des changements importants. Et puis l'oiseau bleu était entre les mains du milliardaire depuis à peine une semaine qu'il annonçait déjà un grand plan de licenciement. La moitié du personnel a été remerciée par un simple mail vendredi dernier. 3700 personnes environ sont concernées. Face à cette décision brutale, les travailleurs ont intenté une action collective devant le tribunal fédéral de San Francisco et de nombreuses entreprises comme Volkswagen ou Pfizer ont suspendu leur publicité sur Twitter. Ça représente une baisse de revenus considérable pour le réseau social. Elon Musk cherche d'autres sources de revenus et là, il envisage notamment un système d'abonnement payant. Bref, c'est la tempête chez Twitter. Marie Cudon, cette violence du management est-elle juste à l'image d'un homme fantasque ou est-ce que c'est une version extrême d'un modèle anglo-saxon? Est-ce qu'il est possible d'imaginer ce type de fonctionnement chez nous en Europe?
En tout cas, je pense que c'est beaucoup plus difficilement imaginable chez nous que de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. Comme le disait déjà Espen Anderson il y a 30 ans, il y a une variété de capitalisme et notre version du capitalisme en Europe occidentale ou en Scandinavie n'est pas la même aussi que l'autre côté de l'Atlantique. Et Twitter avec Elon Musk, ben oui, ça sera sans doute encore plus violent, plus polarisant aussi. Hein. Il ne faut pas sous-estimer l'impact sociétal de tout ceci. On sait que ces techniques de management évoluent globalement, mais ici, on est dans des cas qui restent encore extrêmes. la situation finalement, ou la question, pour finir, il m'a l'air de dire qui va arrêter Elon Musk, hein, qui va permettre de le modérer, pour prendre les termes de l'édito du Standard de ce week-end, qui m'a l'air de bien poser la question, oui.
Le compte à rebours a démarré. La très controversée Coupe du Monde 2022 démarrera le 20 novembre prochain et se terminera le 8 décembre. Nous sommes à 2 semaines du début de l'événement sportif et hier, une enquête du Sunday Times a révélé un nouveau scandale. D'après l'hebdomadaire britannique, des personnalités critiques à l'égard du Qatar ont été les cibles de hackers. Ces derniers auraient été embauchés par le Qatar pour protéger la réputation du pays dans le cadre justement de l'organisation du Mondial 2022. Parmi elles, des journalistes, des avocats ou encore l'ancien patron du foot européen Michel Platini et enfin une sénatrice française. Au sein du gouvernement fédéral, Écolo appelle au boycott, c'est-à-dire à n'envoyer aucun officiel au Qatar pour l'événement. Mais la ministre des Affaires étrangères, Adja Labib, s'y oppose. Alors, quelle est votre opinion à ce sujet, Marie Cudon? Est-ce que ça aurait du sens, finalement, de boycotter un événement comme celui-ci?
Ce que dit la littérature sur le boycott, c'est qu'il y a des intérêts en termes, par exemple, de notoriété. S'il y a du monde, évidemment, ben, ça peut aussi permettre de sensibiliser. Cependant, pour que c'est vraiment un impact beaucoup plus large, il faut en effet que beaucoup de personnes agissent. Et dans ce cadre-ci, on est dans une question d'un événement. La question, pour moi, c'est l'atterrissage. Qu'est-ce qu'on va faire finalement? La Coupe du Monde, elle sera de toute façon organisée. Des droits sociaux, un impact climatique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça dans le futur? Et est-ce qu'il serait peut-être pas temps aujourd'hui de renforcer les critères de sélection ou de décision dans le choix des pays ou des grands événements planétaires? On pourrait penser que la Belgique, par exemple, pourrait porter une nouvelle charte ou des indicateurs qu'on pourrait porter au niveau européen pour justement être plus clair sur qu'est-ce qui nous semble indispensable, pas simplement souhaitable, dans le choix des pays d'hôtes. Pour finir, on a une étude française qui me semblait vraiment intéressante, hein, du CSA d'Abbas en 2021, qui indiquait que 2/3 des Français sont prêts à boycotter un événement s'il n'y a pas d'engagement environnemental. On voit que les choses bougent, que les téléspectateurs aussi, ou les spectateurs sont intéressés par ce genre de dynamique. Et donc, là aussi, on pense que le politique peut agir d'une manière ou d'une autre.
Et c'est déjà la fin de ce brief. Merci beaucoup, Marie Cudon, d'avoir été parmi nous. Je vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée à tous.
Et merci à vous aussi d'avoir choisi de commencer votre semaine avec nous. Ce podcast a été préparé avec l'aide de Ondine Ouérès. Je vous souhaite une très bonne journée. À demain.
Vous méritez plus de passion. Vous méritez plus d'anticipation. Vous méritez plus d'anticipation de la part de votre partenaire patrimonial pour que vous puissiez toujours rester serein, même quand la bourse s'enflamme. Vous méritez également plus de Bank Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Bank Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.